Bien cette chorale, hein? On entend de temps en temps, mais il faudrait qu'on l'entende plus souvent. Chorale. On va lire Romains chapitre 12, verset 3. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Dieu vous bénisse. Romains 12, 3. C'est Paul qui parle et il dit « Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. » C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. Ce matin, c'est ça. Ça va être quelques recommandations. Hein. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Amen. Bizarre, hein? Vous pouvez vous asseoir. On est loin des messages de pensée positive qui sont tellement à la mode aujourd'hui. Oui, alors cette chorale. Dans une chorale, eh bien, il y a toujours quelqu'un, une ou deux personnes qui, en général, ont une meilleure voix que toutes les autres. Hein? C'est vrai. Et dans une chorale, chacun doit mesurer la portée de sa propre voix parce que, de façon à l'insérer hein, dans un chant unique, n'est-ce pas, et puis dans le même rythme, ça s'appelle faire preuve de modération. Alors, quand on parle de faire preuve de modération, alors on pense que c'est négatif. Mais c'est nécessaire et c'est bon pour soi-même et pour les autres, n'est-ce pas, de faire preuve de modération. La modération, ce n'est pas un étau. Ce n'est pas une prison. Il est bon pour soi et pour la vie des autres et la vie avec les autres d'avoir de soi-même une idée juste et de savoir s'imposer des limites. Ah, imposer des limites. On dit toujours qu'il faut dépasser vos limites. Mais savoir se limiter, c'est aussi savoir se limiter dans ses limitations. Ah, je vais me dire, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Celui qui sait limiter ses limitations, il va éviter les excès dans les règles. Il va éviter la rigidité de toute espèce de restriction que la religion cherche à nous imposer. Je dis bien que la religion cherche à nous imposer. Vendredi, je vous disais que Jésus, il est venu pour nous libérer. Il n'est pas venu pour nous coincer dans un truc. Il est venu pour nous libérer de toutes sortes de formes d'esclavage. On n'est pas sorti de l'esclavage du péché pour tomber dans l'esclavage de la religion. Ça vaut un amen, non? Quand on suit le Seigneur Jésus-Christ, alors les choses se passent bien. Les choses se passent bien parce qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de digue. Je regardais l'autre jour sur Internet les digues, vous savez, là-bas, c'est en Hollande, hein, les digues, qui cherchent à retenir les choses naturelles. Il y a des digues qui sont nécessaires, mais il y en a qui nous sont imposées par la religion, qui sont complètement stupides. Vous savez, à force d'interdire ceci ou d'interdire cela, à force de forcer les gens à la discipline, un jour, l'eau, la nature... Ben, elle casse les digues. Il y en a marre, ça casse les digues. Je veux dire, tous ces interdits, tous ces trucs-là, qui créent des tensions, qui créent trop de rigidité, un jour, ça peut mener à la rébellion. Alors après, on s'étonne. Je parle pourquoi. Je regardais ces gamins. Il faut faire attention de ne pas les exaspérer avec vos commandements, vos ordres, vos machins. Il faut aussi savoir jouer avec eux. C'est vrai qu'il faut les élever. Et on a un bon témoignage partout qu'ils sont bien élevés. Mais il ne faut pas exagérer, leur casser les pieds. On casse les digues, ça provoque après des débordements et c'est destructeur. C'est dommage. Le sens de la mesure, voilà ce que Paul nous apprend ce matin. Le sens de la mesure, c'est savoir faire, c'est savoir régler son action selon les moyens que nous disposons personnellement. Nous sommes donc, comme il disait Alain dans sa prière, on est tous responsables personnellement dans cette affaire. Alors, ne surestimez pas vos capacités, nous dit Paul. Notre vie, c'est comme un marathon. Notre vie, nous sommes tous comme des coureurs de fond. Un coureur de fond, il doit être obligé de trouver son bon rythme à lui. Bien sûr qu'il court avec les autres, mais il doit trouver son rythme à lui, en mesurant ses efforts à lui. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre notre but. Peut-être vous serez le 30e dans le marathon, mais au moins vous aurez atteint votre capacité à vous et vous allez pouvoir développer pour ensuite être le 25e. Mais il faut rythmer, il faut, parce que sinon vous risquez de vous essouffler, voire pire, d'être éliminé, de devoir renoncer à la course. Ça, c'est dommage. Commencer quelque chose, pas arriver au bout. Simplement parce qu'on n'a pas pris la mesure de nos propres capacités. On a pensé qu'on était plus fort, qu'on était le sens de la mesure. C'est ce qui garantit, mes frères et sœurs, l'exercice de votre liberté individuelle, le sens de la mesure. On pourrait dire, ben alors non, le sens de la mesure, c'est ce qui met des barrières. Non, c'est ce qui vous garantit de pouvoir exercer votre liberté individuelle en évitant les débordements qui nous sont nuisibles personnellement et qui, à la force, nuisent à tous ceux qui vous entourent parce que vous devenez aigri, vous devenez casse-pied, vous-même parce que vous êtes mal dans votre peau, alors ça s'étend autour de vous. Dieu nous a donné des règles. On n'aime pas ça, les règles. Et pourtant, c'est les meilleures. La religion, on en a inventé des tas d'autres. Mais si vous vous bornez aux simples règles de la parole de Dieu, les 10 commandements, si vous vous imposez ça, si vous apprenez, si vous les connaissez et si vous vous dites tenez à ces règles-là, eh bien, toutes les vous allez limiter les dépenses inutiles, vous allez économiser votre propre énergie et vous allez pouvoir vous développer. C'est ce que Paul dit ici. Il dit acceptez les limites et surtout les vôtres. Parce que mes limites ne sont pas forcément les vôtres. On n'est pas tous pareils. Quelles sont-elles, ces limites? Celles que Dieu a créées en vous quand il vous a mis au monde. Celles qui proviennent ensuite de ces dons qui sont en vous et que vous avez développés par votre foi ou que vous n'avez pas développés par votre négligence. C'est ça, vos limites. J'explique. En venant au monde, on a tous eu des dons. Tout à l'heure, je voyais sur Internet, il y avait un dessin, c'était notre président, M. Sarkozy, qui était avec une baguette magique devant une voiture au salon de l'auto, qui s'était marqué « Ah, le salon de l'auto, une bonne fille qui s'est penchée dessus. Donc, ça va marcher. » Eh bien, sur votre berceau, il y a une bonne fille qui s'est penchée. Hein? Et puis, vous avez reçu un don ou un autre, une capacité, une autre, des possibilités. Mais c'est à vous, après, de développer tout ça. C'est sous forme de semence ce que vous avez reçu à la naissance. Et par votre foi, c'est-à-dire par la confiance que vous développez en vous-même, la confiance que vous développez dans les autres, la confiance que vous développez dans Dieu, le Créateur, alors vous avez développé ces dons, vous avez développé ces talents, vous avez développé ce potentiel. Maintenant, vous n'avez que la force de votre foi en vous-même, dans les autres et en Dieu. Vous n'avez la force que de votre foi, pas de la foi. Votre foi, c'est différent. La foi, Jésus nous dit, elle transporte des montagnes, mais votre foi, vous avez déjà essayé de transporter une montagne? Votre foi, elle doit atteindre une certaine mesure, ça, on la fait grandir. Ma foi, ce n'est pas la vôtre, votre foi, ce n'est pas la mienne. On ne va pas s'amuser à mesurer votre foi, savoir si elle est plus grande ou plus petite que la mienne, ce n'est pas ça le propos. Développez votre foi à vous, pour parvenir à déplacer vos montagnes. Parce qu'on a tous des montagnes, des difficultés, des trucs qui se trouvent sur notre route. Et votre foi n'est pas la somme de la connaissance intellectuelle que vous avez au sujet des choses de Dieu. Pas du tout. Ni même de la psychologie humaine. Pas du tout. Votre foi, c'est votre capacité personnelle de mettre en pratique ce que vous avez appris. Sinon, vous êtes un imbécile. C'est ça l'intelligence. C'est ça la foi. C'est la capacité de mettre en pratique les choses qu'on a apprises. Il y a des tas de gens qui ont appris des quantités de choses et qui se débrouillent très mal dans leur vie parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. C'est terrible. Et tous ici, on apprend les mêmes choses. Vous vous retrouvez là et on étudie et vous entendez tous les mêmes choses, mais tous n'ont pas la même mesure de foi, c'est-à-dire tous n'ont pas la même possibilité d'action. Parce que la foi sans les œuvres, c'est mort. C'est-à-dire que la foi, si ça ne pousse pas à l'action, c'est mort. Donc je dis, on n'a pas tous la même possibilité d'action. Alors, avec peu ou avec beaucoup de foi, quand on a le sens de la mesure, celui qui sait où il en est, celui qui sait mesurer lui-même, celui qui a le sens de la mesure, il arrive à harmoniser ses propres pulsions et il arrive à les harmoniser avec le système de valeurs que nous donne la parole de Dieu, la Bible, et surtout il arrive à vivre dans les situations, dans la situation où il se trouve, au boulot, à table, partout où il se trouve, au sport, n'importe où. Il arrive à harmoniser. Quand il arrive, on ne dit pas « Ah tiens, là l'autre... » Non, parce que c'est quelqu'un qui arrive à mettre de l'harmonie. Voilà pourquoi un jeune converti qui ne sait pas grand-chose au sujet de la parole de Dieu, mais qui a une idée juste de lui-même, c'est-à-dire qui s'est mesuré, qui a une idée juste de sa propre importance, ben il sera très à l'aise et très heureux avec un vieux sage barbu qui lui aussi a mesuré son importance. Ce n'est pas une question de est-ce que tu en as un peu ou beaucoup. La question c'est est-ce que tu t'es mesuré, est-ce que tu es conscient de tes limites, est-ce que tu les as acceptées, est-ce que tu es décidé à grandir. Ce n'est pas question d'introspection, se mesurer. L'introspection, c'est négatif. Si vous faites de l'introspection, c'est ma faute. C'est ma très grande faute d'orthographe. Voilà comment j'écris girafe. Ça, c'était Prévert qui disait ça. Tous les problèmes, ça vient de la démesure. De la démesure. Du fait que quelqu'un en fait trop ou pas assez par rapport à sa propre capacité. Alors, ça finit par le rendre malheureux parce qu'il s'aigrit ou alors il se sent accusé ou il est accusé par les autres. En fait, à la fin, il empoisonne tout le monde. C'est la démesure, en faire trop ou pas assez. Car c'est nous-mêmes qui devons nous mesurer nous-mêmes. Personne n'a le droit de vous mesurer. Alors c'est bien de savoir, personne n'a le droit de me mesurer. Oui, mais ça veut dire aussi que moi, je n'ai pas le droit de vous mesurer. Vous n'avez pas le droit de me mesurer. Oh, on a bien le droit d'avoir une petite idée. Bien sûr, on a tous une petite idée. Pour donner des conseils. Mais alors, il faut que ça soit avec tact, avec gentillesse, avec amour. Tout ça. Mais quand cette petite idée qu'on a sur les uns, sur les autres, nous sert de poids pour mesurer l'autre, alors attention. Attention. Jésus dit que tu seras mesuré comme tu mesures. Ouh! Là, ça donne le vertige. Tu seras mesuré comme avec le centimètre dont tu te sers pour mesurer les autres. Ouh là là, attention. Il y en a qui me disent, « Oh Michel, toi tu ne nous mesures pas parce que tu as fait tellement de péchés dans ta vie que tu préfères pas nous mesurer, comme ça tu ne seras pas mesuré non plus. » Ils sont tordus. Frères, sœurs, l'harmonisation, ça commence en soi-même. L'harmonisation, ça commence par soi-même. On ne peut pas harmoniser un groupe, on ne peut pas harmoniser un pays, on ne peut pas harmoniser une commune. Ça commence par soi-même. Et puis ensuite, ça s'étend au groupe par des ondes. Ils appellent le bon exemple. Le bon exemple, tout simplement. La mesure, le sens de la mesure, ça permet une adaptation paisible, tranquille. Le sens de la mesure, c'est la preuve de la sagesse. Alors Jésus, lui, c'est le roi de la mesure. Lui, il sait qui il est. Il sait qu'il est illimité. Mais regardez comment il agit. Il n'utilise pas son pouvoir illimité pour sa gloriole personnelle. Jésus, il n'utilise pas son pouvoir pour impressionner les autres et pour pouvoir s'en moquer après. Il lit dans les cœurs. Parce qu'il a le sens de la mesure. Pourquoi il peut mesurer? Parce que lui, il n'a ni poutre, ni paille dans son œil. Il est pur. Alors que nous, si ce n'est pas une poutre, c'est une paille. Hein? Mais c'est un ou l'autre. Et ça, on n'y échappe pas. Dieu le sait. On a soit une poutre, soit une paille. En mesurer, c'est quoi que vous avez dans votre œil? Lui, il n'avait rien. Alors Jésus pouvait savoir, il avait la sagesse de savoir ce qu'il faut dire au bon moment, quand il y a les bonnes personnes, au moment où il vient se taire de temps en temps. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il n'a rien répondu, il ne savait qu'il ne fallait pas. Il n'use pas de ses possibilités pour lui-même, il les utilise pour les autres. Il utilise son pouvoir pour défendre les pauvres, des veuves, des orphelins, pour défendre ceux qui sont condamnés par les propres justes. Bon, c'est arrivé 2-3 fois qu'il a utilisé son pouvoir pour faire un miracle, non pas pour se sauver égoïstement de certaines difficultés, mais pour se dégager afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Rappelez-vous, par exemple, ce jour où des religieux fous furieux voulaient le jeter en bas un ravin. Ben, c'est écrit que tout à coup, ils se sont trouvés comme tout bêtes, et puis il a passé au milieu d'eux, et s'est dégagé. C'était un miracle, parce qu'ils étaient... Vous avez vu, quand on les voit à la télévision, les gens du Moyen-Orient, quand ils s'énervent, hein, ça fait de la poussière, c'est dangereux, c'est grave de grave. Mais là, tout d'un coup, et il a passé au milieu tranquillement. À mon avis, c'est des anges qui ont tenu les gens comme ça, et puis il a pu se dégager, parce qu'il savait qu'il devait aller mourir sur la croix pour nos péchés, et il ne fallait pas qu'il meure au fond d'un ravin. Vous comprenez? Donc là, il a utilisé son pouvoir pour lui, mais pas pour lui-même, par amour pour nous, pour pouvoir aller faire ce sacrifice parfait à la croix. Au jardin de Gethsémané, c'est la même chose, c'est écrit que des anges sont venus le servir. Ce n'était pas pour son propre confort, c'était afin qu'il ne meure pas dans ce jardin. Il était en train de mourir dans ce jardin. Alors il était constamment en train de mesurer. Quelqu'un qui est constamment en train de mesurer, c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre. Quand on est sur une corde raide, qu'on marche comme ça, on est constamment en train de mesurer quoi ? Notre propre poids, la rigidité de la corde, le vent et toutes sortes de choses. On mesure tout le temps. Et alors, on peut aller jusqu'au bout, mais si on ne mesure pas. Et ce matin, il nous dit, n'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. Vous avez de l'importance aux yeux de Dieu, c'est ça qui compte. Le reste, on s'en fout. Ce que les gens pensent de vous, mais alors là, mais il faut vous en tamponner. Ce n'est pas important. Moi, je le dis comme ça, l'apôtre Paul, il dit, je me laisse juger par personne. Ça ne l'impressionne pas. Ne vous laissez juger par personne. Ils n'ont pas les tenants, les aboutissants, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas votre vie, ils ne peuvent pas. Vous savez, on dit toujours, je ne sais pas si ça se dit en France, mais chez nous en Suisse, on dit, si tu critiques la démarche de quelqu'un, essaye donc de marcher avec ses godasses, puis tu vas voir. Hein, c'est vrai. C'est ça qui compte. Par contre, il serait bon, la Bible dit, que vous vous efforciez, ça demande un effort, de faire de vous-même une idée juste. Il faut s'efforcer parce que il ne faut pas être superficiel là-dedans. Je parle bien, il ne faut pas faire d'introspection, hein, mais j'espère que vous m'avez compris. Tant de gens pensent qu'ils pensent juste au sujet des autres. Mais ils ne voient pas la paille qu'il y a dans leur œil ou leur poutre. On croit penser juste au sujet de machin, du casse-pied, de la sœur Ronchon. Pas Rochon, hein, Ronchon. Mais ils ne voient pas qu'eux-mêmes, ils ont une poutre dans l'œil. Et c'est justement cette poutre qui les empêche de mesurer les autres à leur juste valeur. On ne peut pas juger les autres. On ne peut pas. Et Jésus, il pouvait parce qu'il n'avait rien dans son regard. Son regard était pur parce qu'il était pur. Vous voyez clair. À nous, il dit, ne jugez pas, point. Point. Pas besoin d'explication. Si tu réfléchis, tu comprends. On n'est pas capable. Mais il dit, mais mesurez-vous vous-même. Sinon, vous allez souffrir. Oh, Jésus, tu nous menaces. Si je juge les autres, je vais souffrir. Alors, ça veut dire quoi? Que tu vas me punir? Que le ciel va s'ouvrir et le doigt de Dieu va me foudroyer? Non. Non, mais tu vas souffrir. Reprenons l'exemple de la chorale. Si dans une chorale, vous avez une personne qui croit, peut-être à juste titre, avoir une super belle, bonne voix, bien meilleure que celle de tout ce troupeau bêlant là à côté, et il va vouloir faire entendre sa super belle voix. Oh! Au début, tout le monde va dire, oh, quelle belle voix! Au bout d'un moment, ça va agacer. Non, vous ne croyez pas? Parce que c'est une chorale. Il n'est pas en train de faire son solo, là. C'est une chorale. Il va agacer, il va susciter l'agacement. Frères et sœurs, on dit on vit en communauté. On devrait arrêter de dire ça. On devrait dire on vit en chorale. Non, vous ne pensez pas? On vit en chorale. Vous n'êtes pas tout seul. Pensez qu'il y a les autres. Il y a tous les autres. Et... c'est quand même pas tous des imbéciles, puisqu'ils sont douaniers. C'est quand même pas tous des imbéciles. C'est quand même pas tous des bêlants, des bras cassés et compagnie. Vous allez agacer et puis vous allez vous rejeter vous-même, vous expulser vous-même par la force des choses, par la nature, c'est normal. Alors vous voyez, Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas le ciel qui s'ouvre et le doigt de Dieu qui vous foudroie. C'est nous-mêmes qui faisons nos propres situations. On va lire Romains 12, 4, 8 maintenant, la suite. Quelle sagesse, vous voyez. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Hein, votre main, votre pied, tout ça, ça fait partie d'un corps unique, à vous. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. L'oreille, ça ne sert pas à faire ce que la bouche sert à faire. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique, pourtant tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous, qui sommes en communion avec Jésus-Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée, c'est-à-dire selon le don qui nous a été donné. Un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi, vous voyez, toujours dans la bonne limite. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat, de la gérance de biens matériels, mais qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères et sœurs de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu, exposer la doctrine, mais qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères et sœurs. Un autre sait exhorter et consoler. Eh bien, qu'il prenne fidèlement soin des âmes et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur, et si vous visitez les malades, apportez-leur de la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Si vous visitez les malades, apportez-leur de la joie. Comment ça s'est passé, cette opération? Ah bon? Eh bien, Madame Truchet, elle a eu la même chose que toi. 3 jours après l'opération, elle est morte. Ça fait du bien, hein? Ah bon? Ben alors, ils l'ont enlevé, cette matrice? Ben, ils ont bien fait à ton âge. À quoi ça pourrait bien te servir? Ça pourrait être rien de positif, hein? Vous voyez, avec le sens de la mesure, on n'est pas seul. C'est drôle comment on commet souvent la même erreur. On se croit seul. On se croit enfermé dans son propre corps, et puis voilà, puis les autres sont enfermés dans le leur. Mais c'est faux. La création de Dieu, c'est un tout. Alors, à la place de mesurer la place que vous prenez dans votre propre corps, ou à la place de mesurer la place que prend l'autre, avec son exubérance, ou avec enfin, peu importe. À la place de mesurer ça, mesurez la forme qui se trouve entre vous et les autres. Ce vide qui vous sépare des autres, c'est ça qu'il faut mesurer. Quel espace sépare ma main de ma tête? L'espace que je veux. Je peux me gratter facilement, pas de problème. Ce que je veux, je peux la mettre là, je peux la mettre là. Ce que je veux. Quel est l'espace qui sépare ma main de ma tête? Pas de problème. Ce que je veux. Maintenant, quel espace sépare mon gros orteil de mon nez? Ah, là c'est un peu plus difficile. Ça demande de la souplesse. Eh bien, vous voyez où je veux en venir? Vous êtes séparés plus ou moins que par le manque de souplesse, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont un peu éloignés de nous, de par leur culture, de par leur conception des choses, de par ceci, de par leur richesse ou leur pauvreté, peu importe. Mais ce qui peut nous rapprocher d'eux, c'est la souplesse. La souplesse, on peut dire aussi la tolérance, la gentillesse, le savoir-vivre. C'est pas vrai ce que je vous dis ce matin? Frère Casse-Pied, cette sœur boudeuse, ce frère râleur, cette sœur m'as-tu vu, ce frère si différent de toi. Eh bien, il fait pourtant partie du même corps, c'est-à-dire il fait partie de la même création, c'est-à-dire qu'il a le même créateur que toi. Alors, pourquoi est-ce que tu cherches pas à réduire la distance entre toi et ce frère bizarre? C'est vrai que je prends l'orteil. Moi, c'est formidable, je ne sens pas les pieds. Ce n'est pas une question de parce que je les lave, mais je pense que vous vous lavez aussi les pieds, mais je sais dans la communauté, il y en a quelques-uns, c'est terrible, ils ont beau se laver les pieds, ils sentent terrible. Alors quand on dit l'orteil sur le nez, bon, des fois, ce n'est pas très agréable au nez. Des fois, il y a des gens, ce n'est pas très agréable, non pas, c'est pas parce qu'ils puent, mais parce que, on m'en dit, il n'y a pas d'atome crochu. Eh bien, rendez-vous souple vous-même, ne demandez pas au gros orteil qui pue des pieds, d'être souple. Soyez souple vous-même. Soyez tolérant, soyez gentil. Chacun de nous a besoin de l'autre pour être complet. Parce que où est-ce qu'il irait mon nez s'il n'y avait pas mes pieds? Il irait pas bien loin. Alors, puisqu'on comprend ça, pourquoi pas le vivre? Alors, là-dedans, le temps est révélateur, comme je vous disais l'autre jour. C'est le temps. C'est dans le temps que ça se passe. C'est dans le temps, il y a un temps pour toute chose. Et puis il y a un temps où toi tu es bien disposé, et puis où tu veux justement être souple, puis l'autre il n'est pas bien disposé, il n'est pas souple du tout, justement en ce moment-là. Eh bien il faut que tu exerces la patience, avec le temps tout va changer, les choses changent. Ici-bas tout se transforme tout le temps. C'est jamais toujours pareil. Alors mesure-toi, et puis attends. Dans le mot attends, il y a temps. La patience, c'est la vertu la plus efficace, donc c'est la plus difficile à maintenir au top dans notre vie. Il y a des moments où je suis terriblement patient, puis après il m'arrive une petite broutille de rien du tout, puis je saute au plafond. Hein, vous me connaissez, ça fait bientôt 30 ans certains. La patience. Alors, il faut mesurer notre patience et profiter du temps des difficultés, c'est-à-dire les difficultés, elles durent aussi un temps, ça finit toujours par s'arranger, hein, on a remarqué ça. Eh bien, profitons du temps des difficultés pour agrandir notre capacité de patience. Profitons en disant, bon, ben, il y a quelque chose de positif dans ce truc de difficulté là actuel, c'est que je vais pouvoir exercer ma patience et non pas ronger son frein, se rendre malade, se faire des ulcères et que sais-je. Mais faisons-le avec modération aussi. Ne faisons pas que d'attendre patiemment. Pendant ce temps, aimons aussi, bénissons. Prions pour nos ennemis, prions pour ceux qui nous cassent les pieds, prions pour ceux qui ont créé les difficultés. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ça le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Mesurez-vous personnellement. Ne pensez pas, ça tombe à pic pour la sœur Intel. Si tu penses ça, alors mesure-toi maintenant. Ne te condamne pas, t'as pensé ça. C'est pas bien de penser ça, mais ne te condamne pas, simplement mesure-toi, puis accepte que tu as une limite. Tu as pensé ça, ça veut dire que tu es vraiment limité. Mais accepte, voilà, j'ai une limite, mais maintenant, j'aimerais dépasser un peu cette limite, j'aimerais grandir, Seigneur, aide-moi. Attache-toi à agrandir tes possibilités, pour avoir un espace plus grand pour aimer. Tu as les dons, tu as la foi. Mais il ne faut pas que tu te berces d'illusions. Ce n'est pas la foi qui sauve, contrairement à ce qu'on dit. C'est ta foi qui sauve, qui te sauve. Ta foi que tu as travaillée, que tu as modelée, que tu dois encore travailler, que tu dois encore modeler, patiemment, sans jamais te condamner, ni te surestimer. Vous voyez les deux problèmes. Il y en a qui sont toujours 6 pieds sous terre à dire « Oh, je suis qu'un pauvre pêcheur, je suis une vieille limace pourrie, je ne vois rien du tout, Seigneur, face à ta grandeur. Oh mon Dieu, que je suis petit, mais rien du tout, je suis un vermisseau, un vermicelle, je ne suis rien. » Et puis, tu en as d'autres qui disent « Seigneur, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Heureusement que je suis là. Hein? » Parce qu'un dit-donc, si je n'étais pas là pour prier pour les gens, ce n'est pas toi qui te déplacerais, hein? C'est loin le ciel. Heureusement que je suis là. Ne te condamne pas, ne te sous-estime pas, mais ne te surestime pas non plus. Mais toujours dans l'équilibre que donne l'amour. Amen et amen.